L'auriculomédecine, qui approche non pas en tant quelquefois que médecin, les médecins sont très intéressés, mais les étrangers, les journalistes. Il m'arrive très fréquemment de prendre des contacts avec des journalistes qui veulent avoir les uns un document écrit, les autres un document simplement oral ou qui désire faire une séquence de cinéma. C'est ce qui est arrivé encore récemment dans la visite qui s'est passée dans mon cabinet par l'Associated Press, deux Anglais qui sont venus faire un petit film de 10 minutes, qui a dû peut-être passer sur les chaînes de télévision, j'en sais rien, on a dit que ça passerait sur le plan européen. Eh bien, ce qui intéresse ces gens-là, ce sont les filtres. Lorsqu'on arrive à ce niveau, vraiment, ils sont bouleversés, ils ont l'impression que c'est quelque chose de différent de ce qu'on avait bien pu leur dire sur l'auriculothérapie, parce qu'ils ne connaissent pas l'auriculomédecine. C'est les filtres ont été, en somme, dans leur principe, découverts d'une manière assez curieuse, et je n'en suis pas l'auteur. C'est un de vous, qui n'est pas là, actuellement, parmi vous, probablement, il me semble bien me souvenir que c'est Patrice Bernard, qui actuellement exerce près de Valence, qui un jour, au cours d'un stage, m'a dit « Monsieur, j'ai l'impression qu'en approchant un corps de la peau, on a une réaction au pouls. » Il prenait extrêmement bien le pouls. Et c'est à partir de cette observation que j'ai développé toute l'étude des approches de la peau. Il est évident qu'il ne faut pas trop sentir de choses, et c'est un écueil très grave qu'il faut éviter, à savoir que les filtres sont, par leur approche de la peau, donnent des racks extrêmement fréquent, et qu'on peut avoir, en recherchant trop de détails, des informations qui ne sont pas réellement à retenir. Soyez donc prudents. Oui, il y a des réactions du pouls lorsqu'on approche des corps de la peau, mais il ne faut pas retenir les informations tout à fait secondaires, mais chercher à observer simplement ce qui est le plus important. Plus je vais, plus je retiens les réactions importantes. Et je vois, chez les quelques stagiaires qui passent dans mon cabinet, que j'aurais plutôt tendance à sentir moins de choses que ce que sentent ceux qui passent. Donc il faut être prudent, il ne faut retenir que les grosses informations. Il faut retenir les grosses informations parce que c'est là véritablement le caractère objectif du RAC que l'on met en évidence. Et il faut absolument se défaire de l'habitude de la micro-information trop subtile qui nous porte à interpréter des nuances qui déjà existent au niveau d'un pouls nettement perçu. Au début, ces filtres ont été constitués par des préparations que nous faisions avec René Bourdiol dans mon cabinet sur le porc. Le porc était l'objet d'une dissection extrêmement attentive et j'ai encore des quantités de préparations qui ont été mises sous lame. Sous lame de verre, ensuite ces lames de verre étaient luttées, et ainsi on pouvait faire des études. Or, l'expérience m'a montré, au cours du temps, qu'il était difficile de pouvoir faire confiance absolument au verre, car il y a souvent des informations qui sont attachées au verre même et non pas à la préparation. Le verre n'est pas une substance absolument homogène et l'on peut, si l'on réfléchit, penser que des sels extrêmement toxiques comme l'arsénate de plomb peuvent se glisser au milieu de cette préparation de verre avec les silicates. Et alors, dans ces conditions-là, j'ai cherché un moyen de pallier à cet inconvénient. Et c'est ainsi que les anotests sont nés. Les anotests représentent une énorme progrès sur ces préparations de verre. Pour plusieurs raisons, c'est que si les préparations avec Soulam étaient intéressantes à certains points de vue, elles avaient aussi des inconvénients. Les inconvénients surtout, c'est qu'elles se cassaient, c'est qu'elles se dégradaient assez vite et que aussitôt heurtées ou même simplement empilées, ces préparations n'étaient plus utilisables et beaucoup d'entre elles n'existent plus et nous le regrettons tout à fait. Tandis que lorsque nous employons la méthode de la notesse dont je vais vous parler, eh bien, on a l'impression d'avoir au moins pour le support un corps qui ne se dégrade pas. J'ai demandé à des spécialistes de bien vouloir étudier justement ces petites lames carrées, de les mettre sous plastique et d'en faire quelque chose de pratique. L'idée de cet anneau sous forme de montre ne m'a pas été, m'a été donnée et je ne l'ai pas eue. Je dois dire que il y a eu vraiment, de la part de l'inventeur, qui s'appelle M. Bourget, qui était un spécialiste technicien à la société CEDAT, je veux dire qu'il y a eu vraiment un coup d'invention remarquable parce que ce petit anotest est très pratique. Il fallait cependant que toutes les parties de cet anotest soient neutres vis-à-vis de la peau lorsqu'on l'approchait de la peau. Et là, ça pose un gros problème. J'ai été obligé pendant des mois d'étudier toutes les formes de caoutchouc qui m'ont été livrées pour dire ce caoutchouc va, mais celui-là ne va pas du tout, il faut changer la composition de ce premier caoutchouc. Et il a fallu étudier caoutchouc, matière plastique transparente, comme vous avez vu, qui se trouve à l'intérieur de l'anneau de caoutchouc. Et il a été choisi un corps spécial au point de vue des plastiques qui s'appelle le lexan. Le lexan qui n'est pas du tout un polyamide et qui ne donne pas vis-à-vis de la peau de rebond, absolument quelle que soit la personne. On avait donc un caoutchouc, un support, nous avions des anneaux transparents, nous avions des disques transparents, il fallait aussi voir si le papier était neutre. Et j'étais très frappé de voir que parmi les papiers buvards qui m'étaient présentés, les papiers sans cendre n'étaient pas neutres. Ça, c'est curieux. Comme si le fait de ne pas avoir de cendre témoignait d'un trafic au point de vue chimique qui lui-même laissait des traces sur le papier et qui était toxique. Alors, il a fallu choisir aussi un papier filtre. Et il ne faut pas simplement le choisir une fois pour toutes. Il n'y a pas, au cours de la fabrication de ces anneaux, une série qui est lancée sans qu'elle soit contrôlée. Je la contrôle personnellement, car j'estime que c'est honnête. Il faut absolument éviter qu'on sorte des caoutchoucs qui ne soient pas absolument neutres, ainsi que du lexan qui peut, lorsque il est fait dans certaines conditions, peut avoir une action sur la peau. En particulier, on s'est aperçu que les produits qui étaient des produits graissants sur les presses pouvaient, par des traces infinitésimales, marquer lorsqu'on approchait de la peau. Donc, la question des anotests, ce que nous appelons anotests, est extrêmement importante et méritait une étude attentive. Grâce à cela, nous avons pu commencer à étudier l'action des corps chimiques biologique des couleurs vis-à-vis de l'approche de ces filtres sur la peau. Alors nous allons voir d'abord ce qui se produit lorsque on approche un filtre du pavillon. Il faut savoir, il faut comprendre ce que nous pouvons observer, car très fréquemment, la plupart des symptômes qui se passent en auriculomédecine sont vus globalement, sans analyse, et au fond, nous ne savons pas très bien ce qui se fait, ce qui se produit et pourquoi cela se produit. Alors, je vais vous marquer sur un dessin, je vais essayer de vous dire ce qui se fait. Oreille. Et nous rapprochons un filtre de la peau. Ce filtre rapproché du pavillon va donner, dans le cas où il y a une réaction, va donner une réaction forte à une certaine distance. Cette distance, en général, est de 6 cm, 6 à 8 cm. Et, je vous l'ai déjà dit, et souvent, cette simple affirmation suffit pour ceux qui examinent. Il est nécessaire cependant de pouvoir observer ce qui se passe avant l'arrivée du filtre à cette zone critique et après lorsque nous nous rapprochons de l'oreille. Eh bien, nous avons plusieurs solutions et plusieurs cas à observer. Le premier, nous avons différents racks qui augmentent à mesure que nous arrivons à la zone critique, puis la zone critique dépassée, nous n'avons plus rien. C'est le premier cas. Ce premier cas, nous le verrons, exprime une certaine appétence du corps vis-à-vis du produit qui se trouve dans l'anneau. Et cette réaction est à rapprocher de la réaction d'écart que nous verrons tout à l'heure. Le filtre étant rapproché et étant écarté brusquement. La seconde observation que nous pouvons faire est la suivante. Nous rapprochons le filtre, nous n'avons rigoureusement rien, puis brusquement, nous avons à 6 cm, nous avons une énorme réaction. Puis cette réaction continue, augmente encore pour avoir son maximum au niveau du pavillon d'oreille. Nous avons donc une zone qui est de plus en plus réagissante, arrivant à un maximum au moment où nous sommes en contact avec le pavillon. C'est la deuxième solution. En général, l'interprétation qu'on peut faire de cette observation est que l'organisme supporte mal l'arrivée de ce corps, de cette substance qui est dans l'anneau test, et c'est déjà un indice d'une certaine toxicité. Vous avez également la possibilité, beaucoup plus rare, mais qui existe, d'une zone critique qui, au lieu d'être formée par une seule ligne, vous avez vu qu'elle s'est allée, est formée par deux ou trois plombs qui se rapprochent de la zone critique et qui font que en deçà et au-delà, vous n'avez presque pas de réaction. C'est une éventualité qui peut du reste être également représentée en sens inverse par une zone neutre entourée de deux zones actives, l'une vers le pavillon et l'autre en deçà de la zone neutre. On obtient un semblable résultat et une semblable disposition en employant des filtres spéciaux qui sont des filtres mélangeants des feuilles d'or et des feuilles d'argent. Nous verrons dans un autre séminaire ce que veut dire cette signification synthétique qui indique une certaine carence énergétique ou un certain excès énergétique lorsque l'on trouve d'une part pour la carence cette espèce de hiatus et un excès lorsque l'on trouve au contraire une zone particulièrement forte et épaisse à 6 cm ou 8 cm devant le pavillon. Nous avons aussi à observer la distance à laquelle se produit le rebond maximum, c'est-à-dire la zone critique que nous avons tout à l'heure notée à 6 cm. Elle peut se trouver beaucoup plus près de l'oreille, elle peut se trouver beaucoup plus loin que les 6 cm. Et nous pouvons observer des filtres sur certains sujets qui donnent des rebonds à une approche véritablement très grande, puisque c'est à partir de 60 et 50 cm que nous avons le rebond. Application, ces filtres qui donnent ces rebonds à longue distance doivent être considérés comme porteurs d'une substance auquel l'organisme est allergique. Au contraire, c'est l'inverse lorsque nous n'avons de rebond qu'au niveau du pavillon d'oreille ou très près. Il y a une certaine énergie que l'on peut mesurer à ce moment-là sur le pavillon. Toutes ces observations ont des applications cliniques. Et il faut d'abord voir et analyser la disposition de ces rebonds vis-à-vis du pavillon. Lorsque nous avons envisagé l'approche, il est intéressant de voir ce qui se produit lorsque nous touchons le pavillon avec le filtre. Là, nous pouvons observer deux cas. Le premier consiste à observer un nombre de pulsations plus ou moins grand, positives, RAC positif, et qui indique en général une certaine toxicité du produit contenu dans le filtre. L'autre, pas de réaction. Pour le numéro 1, c'est-à-dire pour dans l'existence, et pour le numéro 2 aussi, le premier contact n'est pas suffisant pour avoir un diagnostic de valeur. Et il est nécessaire d'établir un second contact très rapidement après, et une fois, dans le cas numéro 1, où nous avons compté les différentes pulsations. Le second contact est très important, nous l'appellerons 3, et permet de juger non seulement de la toxicité du produit contenu dans le filtre, mais aussi de l'état d'allergie qu'a l'organisme vis-à-vis de la substance contenue. Second contact, qui va donner un certain nombre de pulsations peut-être, ou rien du tout. Si ça ne donne rien, nous verrons plus tout à l'heure une autre manière d'analyser le filtre, mais donc solution première, il n'y a pas de pulsation, et deuxième solution, il y a des pulsations réactionnelles. Ces pulsations réactionnelles vont être vis-à-vis des premières, soit les mêmes, soit moins fortes, soit plus fortes. Alors, nous allons étudier ces trois cas. Le second contact est donc très important et va nous permettre de savoir, suivant l'observation que nous allons faire, nous allons connaître beaucoup de réactions d'organismes. Voici, par exemple, une courbe qui va montrer au second rebond que nous avons le même nombre de pulsations, ça va être la courbe numéro 1, des pulsations qui vont être plus importantes, et nous partons, et nous avons la courbe numéro 2, et des pulsations moins importantes, et nous arrivons à la courbe numéro 3. Si nous n'avons aucune pulsation, la question est réglée dans l'un et dans l'autre cas, nous n'avons pas de pulsation. Nous examinerons donc ce filtre plus tard par l'écart. Mais si nous avons eu des pulsations réactionnelles au contact, nous allons envisager les trois éventualités du second contact. Le second contact, donc en 1, montre l'identité des pulsations réactionnelles. Ces pulsations réactionnelles vont indiquer une stabilité de la toxicité du produit contenu dans le filtre vis-à-vis de l'organisme. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas, au cours des prises du médicament, si c'est un médicament, il n'y aura pas beaucoup de changements dans le temps. Si, au contraire, c'est la solution 2 qui se présente, c'est-à-dire, si les pulsations réactionnelles sont beaucoup plus élevées dans le second cas que dans le premier, on peut dire que l'absorption du médicament, de la substance contenue dans le filtre, va produire des phénomènes d'intoxication et surtout d'allergie, car le premier cas peut être déjà un phénomène d'intoxication, mais surtout des phénomènes d'allergie et souvent de rejet au sens le plus général du terme, c'est là la réaction de rejet, qui sera d'autant plus importante que le rapport entre les premières pulsations réactionnelles et les secondes seront plus forts, c'est-à-dire, je suppose que nous ayons deux pulsations réactionnelles pour le premier contact, il va y avoir une différence très grande si au second contact nous avons 4 ou si nous avons 15. Dans le premier cas, nous avons une fonction qui est d'augmentation type arithmétique, dans l'autre cas, c'est une fonction de type géométrique et qui peut être extrêmement croissante. J'ai vu des seconds rebonds qui passaient de 1 à 20. À ce moment-là, l'organisme réagit d'une manière brutale à un second contact et la prise du médicament provoque des phénomènes d'allergie qui aggravent la toxicité du produit d'une manière importante. Dans la solution 3, c'est-à-dire lorsque le nombre de pulsations réactionnelles baisse vis-à-vis de la première du premier contact, vous avez des phénomènes d'allergie. Un exemple, prenons le cas du filtre tumeur. Le cas du filtre, par exemple, du filtre de tumeur de saule. d'une tumeur, d'un extrait tumoral que, en préparation histologique, histopathologique, que vous avez pu avoir et vous procurer. Première pulsation, premier contact. Nous trouvons par exemple 10. Ce contact de 10 ne veut pas dire grand-chose. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une certaine toxicité qui est perçue par l'organisme, qui n'est pas mauvaise. C'est pas mauvaise. Mais si nous trouvons après 2, eh bien, il y a, malgré la toxicité perçue par l'organisme, il y a un état d'énergie qui fait que l'organisme ne se défend pas. Il va donc créer des symptômes secondaires, mais il ne se défend pas contre la tumeur. Évidemment, plus grave est encore le résultat qui serait premier contact 0, deuxième contact 0. C'est évidemment très très grave. Très grave. Comment ? Ça peut être un signe très grave ou ça peut être un signe d'absence de maladie si vous n'avez pas de rebond à l'approche du filtre à 6 cm. Si vous avez de nombreuses pulsations réactionnelles à 6 cm et que vous ayez 0 premier contact, 0 second contact, c'est un signe très grave. Mais pourquoi ? Parce que l'approche à 6 cm indique qu'il y a une liaison entre le corps contenu dans le filtre et l'organisme. La liaison existe, elle n'explique pas si cette liaison est bonne ou si cette liaison est mauvaise. Il y a liaison, il y a un lien, une relation, c'est une relation qui existe entre l'organisme et le produit qui se trouve dans le filtre. Et l'importance des pulsations va donner l'importance de cette liaison. Elle peut être très grande et elle peut être tout à fait quelconque. Et les pulsations, quand vous en aurez l'habitude, peuvent être moyennes ou elles peuvent être fortes. Vous pouvez avoir l'impression d'un rack très puissant. Et surtout, les pulsations sont très fréquentes et très, très répétées, ou alors au contraire, vous avez quelque chose de mou, qui n'est pas très fort. C'est très intéressant, surtout, nous le verrons plus tard, pour l'isolement des médicaments et pour l'indication des médicaments. Donc, l'approche à 6 cm, alors j'en profite pour vous le dire et vous le répéter, l'approche à 6 cm qui est positive indique qu'il y a une liaison entre le corps et l'organisme. Et puis, le contact va nous donner le sens de cette liaison, si elle est bonne ou si elle est mauvaise. Dans le cas où elle est bonne, eh ben, c'est que vous n'avez absolument aucune réaction au contact, ni au premier contact, ni au second contact. Si, au contraire, vous avez un second contact qui donne des pulsations réactionnelles très fortes, positives, beaucoup plus importantes que le premier, vous avez une espèce de phénomène de rejet qui se produit. Un exemple, j'avais hier dans mon cabinet une malade qui a eu une histoire très complexe sur laquelle je ne m'étendrai pas et qui a eu une greffe du rein droit. Et bien lorsque j'ai approché rein droit de son oreille, j'ai eu une ou deux pulsations réactionnelles. Mais quand je l'ai touché, il y avait naturellement quelques pulsations réactionnelles à 6 cm, montrant qu'il y avait une liaison entre cette préparation et la malade. Alors, premier contact, 2-3 pulsations, second contact, 10 à 15 pulsations. Elle fait actuellement des phénomènes de rejet. Et j'étudie, et je suis pour la première fois une malade qui est traité par la méthode traditionnelle et j'essaye de voir ce qui se produit dans les différents tests avant de trouver, je l'espère, un moyen qui éviterait à cette femme d'avoir les doses massives de cortisone qui la fatiguent. D'autant plus, le cas est d'autant plus grave qu'elle a déjà eu l'ablation du rein gauche. Alors elle est dans l'anxiété de se retrouver avec un rein artificiel, ce qui évidemment n'est pas avec des C'est pas très agréable. Après le contact, la répétition de ce contact, le filtre a été en contact avec le pavillon et on l'écarte brusquement. Vous l'écartez brusquement, vous l'écartez trop lentement. Si vous l'écartez trop lentement, l'organisme peut se désensibiliser très vite à cette privation et vous n'aurez pas à la réaction du pouce suffisamment de précision. Il faut l'écarter brusquement et à ce moment-là, vous pouvez voir apparaître au pouls un certain nombre de pulsations positives ou rien du tout. Lorsque, par exemple, vous avez affaire à un filtre saule, un filtre de tumeur, et que l'organisme possède lui-même une tumeur, eh bien, lorsque vous écartez le filtre, vous n'avez absolument pas de réaction positive. Il faut, non, pour l'écart se produit du contact à l'extérieur. Bon, on mesure avant, c'est intéressant de commencer comme je vous l'ai dit, c'est-à-dire de voir d'abord ce qui se passe à 6 cm, puis ensuite de faire le premier contact, second contact, et puis écart. Et j'insisterai tout à l'heure, je vais revenir là-dessus, sur la question des médicaments, savoir comment justement on teste les médicaments. On teste les médicaments. Alors l'écart il signifie l'appétence qu'a l'organisme vis-à-vis du corps qui a été approché. On peut trouver, pour certains cas, la double réaction. On peut trouver toute la combinaison. On peut trouver la double réaction, c'est-à-dire une réaction toxique, une réaction d'allergie et aussi une appétence. On trouve cela, on peut trouver, on peut tout trouver. Mais enfin, c'est plus rare. La plupart du temps, lorsque vous avez une appétence, vous n'avez pas de toxicité. Mais ça se trouve pour des médicaments. Et pour justement les médicaments qui sont souvent des médicaments lourds, des médicaments pour des maladies très graves. Oui, j'en prie.
Nous avons une malade commune, monsieur, pour laquelle on a trouvé...
Moi
aussi, vous avez trouvé la double réaction au
thé gréthol. Oui, c'est ça. C'est ce que je dis. On peut, oui, vous aussi.
C'est la caractéristique des drogues.
C'est ça, c'est exactement ça. C'est la caractéristique de certaines drogues, la caractéristique de certains médicaments anticancéreux, qui sont, alors surtout c'est là où on le voit, qui sont très toxiques, et qui, à l'écart, possèdent quand même des pulsations d'écart montrant qu'ils ont un effet bénéfique. Ils ont un effet bénéfique, ils ont un effet maléfique, et le tout c'est de savoir dans quel secteur ils ont leur effet bénéfique et maléfique. Et vous savez qu'on peut savoir d'une manière extrêmement précise comment agit un médicament. De la manière suivante, nous avons les trois filtres, ectoderme, mésoderme, endoderme, que nous essayons préalablement par contact avec l'oreille et qui en général, heureusement, pour la plupart du temps, sont négatifs, je suppose. Enfin, je suppose qu'ils soient négatifs. S'ils sont positifs, il faut tenir compte de cette positivité et de voir que les variations. Lorsque vous avez essayé les trois filtres et que vous savez quelles sont les réactions de votre sujet, il vous est possible de connaître très exactement de quelle manière agit le médicament que vous testez. Vous le posez sur le bras, en admettant toujours que l'individu est direct au point de vue réaction, et puis vous rapprochez les trois filtres, ectoderme, mésoderme, endoderme, et puis vous voyez apparaître, par exemple, dans endoderme, des réactions invraisemblables, 10, 12, 15 pulsations de contact ou d'allergie. Et au contraire, vous pouvez parfaitement essayer l'effet bénéfique de ce corps, qui par exemple sera un corps anticancéreux, en voyant disparaître certaines informations du filtre saule lorsque vous le placez sur le bras. Vous avez donc un filtre qui, par le corps qu'il présente, a la double possibilité, d'une part de fatiguer le foie, d'autre part peut-être d'être anti-mitotique. Et il faut, à vous, médecin, il faut savoir choisir. Il est évident qu'il m'est arrivé de voir des médicaments anticancéreux, j'en parle parce qu'on les étudie encore pas mal, qui n'ont aucun effet favorable. Aucun, aucun, aucun. Alors quand ils sont uniquement toxiques et aucun effet favorable, moi je signale ça au malade. Je crois que c'est honnête. Mais quelquefois, vous avez la double action et vous pouvez distinguer dans cette action du médicament la partie qui sera uniquement neuro-végétative et la partie qui est véritablement efficace. Ce qui fait dire quelquefois, lorsque les gens se traitent et qu'ils ont un traitement chimiothérapique assez important, je les préviens que tel médicament peut leur donner des troubles neurovégétatifs graves, mais que ce n'est pas très important car l'effet bénéfique continue par ailleurs. Je vous ai dit probablement comment, en tout cas je vous le dirai, comment on peut distinguer et faire le clivage entre ce qui est neurovégétatif et ce qui est organique. Est-ce que je vous l'ai déjà dit déjà ? Non, j'ai l'impression que il y a une unanimité négative. Bon, eh bien, vous avez un corps qui, placé sur le bras des malades, permet le clivage. Ce corps, vous le connaissez très bien, et il est employé par pas mal de malades, mais je crois qu'il est assez unique dans ce genre-là, puisqu'il coupe toutes les informations neurovégétatives, c'est la dihydroergotamine. Alors, vous faites un test de dihydroergotamine et vous la mettez sur le bras, et bien à ce moment-là, toutes les informations neurovégétatives disparaissent. Dans le cas du cancer, par exemple, lorsque vous avez eu de belles réactions d'approche du filtre sol, vous vous dites, ça y est, mon malade est atteint d'un cancer. Et bien, il faut mettre ce test à sa juste valeur, le voir à sa juste valeur en rajoutant un filtre d'hydroergotamine. Sans ça, vous risquez d'alerter un malade sur l'existence possible d'une tumeur qui n'existe pas encore. Et d'une manière générale, je saurais trop attirer votre attention, parce que il y a eu quand même quelques échos. Ne soyez extraordinairement prudent dans ce que vous dites aux malades dans ce secteur. Moi, je prends les plus grandes précautions, même lorsque je suis sûr qu'il y a quelque chose. Je dis, il est possible que le terrain ne soit pas très bon, les gens, ça l'air tout de suite. Mais il ne faut pas dire jamais à un malade, vous avez un début de tumeur, il faut le traiter, etc. C'est dramatique. Pourquoi ? Parce que vous avez des possibilités de diagnostic qui sont plus précoces que dans n'importe quel secteur, en admettant que vous ne soyez pas trompé, ce qui est quelquefois possible. Et la malade va naturellement alerter les spécialistes qui vont faire des examens. On va trouver que ces examens sont négatifs. Et le malade n'est jamais satisfait parce que vous l'avez bouleversé. Si vous lui dites d'une manière extrêmement prudente, nous avons, moi je crois que c'est ce qu'il faut dire, nous avons des moyens d'examen qui sont beaucoup plus sensibles, 20 000 fois, 30 000 fois plus sensibles que tous ceux qui existent à l'heure actuelle. Mais ils sont basés sur une observation personnelle. Et nous pouvons nous tromper. Soyons modestes, toujours, et disons que nous pouvons nous tromper. Nous avons, j'observe, je pourrais dire à tel ou tel malade, et puis ça dépend des cas. Et pouvez-vous faire un examen de contrôle ou pouvez-vous faire que je vous suis de temps en temps, tous les 2, 3 ou 4 mois, pour surveiller une petite information qui me paraît douteuse, encore que je ne puisse être sûr de rien. Si vous dites ça, le malade en sera toujours reconnaissant et il n'y aura pas d'ennui. Malheureusement, ça n'est pas toujours le cas. Et souvent, des paroles malheureuses sont prononcées qui aboutissent à des réactions anormales de la part du malade, qui va être privé, puisqu'il va avoir des examens négatifs, Il dira, tout ça, c'est de la foutaise, c'est de la blague, et il n'aura pas la possibilité de se soigner à temps ou d'être alerté à temps, parce que là, lorsque certains symptômes cliniques se développeront, il ne fera pas appel à vous. Donc, soyez extrêmement prudent en ce qui concerne cette maladie. On trouve des informations très fréquemment, souvent à tort, parce qu'on ne connaît pas le moyen d'éliminer, je viens de vous le donner, la partie neurovégétative. Il faut donc parler d'un programme mauvais, mais il ne faut pas parler de tumeur. Jamais prononcer ce mot tant que vous n'avez pas des éléments absolument sûrs. Et même ayant des éléments absolument sûrs, eh bien, il faut que vous ayez une confirmation clinique par des spécialistes. Et les gens, à ce moment-là, admettent assez facilement la possibilité d'avoir cela. Moi, j'ai des malades qui viennent me voir, qui ont des qui savent, qui parlent du cancer, qui parleraient de je ne sais pas quoi, d'autres choses. Je ne sais pas si à leur intérieur, ces femmes, parce qu'il s'agit de femmes, sont extrêmement bouleversées. C'est possible, mais en réalité, on voit des choses qu'on ne voyait pas il y a 15 ans, même 10 ans. On voit des personnes arriver en bonne forme extérieure, moi j'en ai une qui vient de la Savoie, en très bonne forme extérieure, gentille, charmante, elle vient avec sa fille, qui l'amène en voiture le soir, et ils font tout le trajet, sans fatigue. Comment ça va? Très bien. On ouvre le corsage, il y a un énorme cancer ulcéré qui a été traité par les méthodes classiques, qui continue à être traité par la chimiothérapie. Et c'est des trucs à peine concevables. Il y a quelques années, elle m'a dit mon cancer, elle ouvre tout, elle regarde ça. Je ne dis pas que ça lui est égal, mais ça a l'air de... Si vous voulez, le cancer évolue moins qu'autrefois avec certains produits chimiothérapie qui donnent l'espérance aux malades, et puis il y a une ambiance différente. Mais en tout cas, il faut être prudent la première fois qu'on fait un diagnostic.
D'après l'opinion des pharmacologues, la dihydroergotamine agit sur l'autosympathie. Pourquoi pensez-vous que cette substance agit sur tout le système neurovégétatif?
Oui, mais il agit en général sur tout le système neurovégétatif aussi. Vous dites orthosympathie, je veux bien, mais aussi sur tout le système neurovégétatif. C'est lui qui le coupe en général.
Pourquoi mis sur le bras?
Sur le bras, vous savez que les fils qui sont mis sur le bras, en général, lorsqu'il y a une réaction directe, ce sont des filtres qui imposent complètement, si vous voulez, leur information. Alors, nous allons en parler tout à l'heure au sujet des filtres, justement, quelle est la signification, ça va nous permettre de le faire, quelle est la signification que nous avons lorsque nous avons des pulsations en approchant de la peau, ou que nous posons un filtre sur la peau, ça a une signification. Bien sûr. C'est une autre méthode. Il y a une quantité de méthodes qui se recoupent. Oui, pas vraiment plus haut sur aucun test, sur uniquement sur la neurophysiologie.
Si ça supprime le neurovégétatif, ça doit supprimer les réactions au blanc et au noir sur l'oreille.
Bien sûr.
Ça doit supprimer les transferts à la lumière, les transferts à l'aimant, les transferts au toucher. Or, ça ne supprime aucun de ces tests. Alors, j'aimerais voir, comprendre comment vous pouvez affirmer que ça efface le neurovégétatif.
Pourquoi voulez-vous que ça supprime les transferts à la lumière? La lumière agit lorsque, surtout avec la lampe de Rayner, vous agissez sur les capteurs thermiques qui ne sont pas du tout des capteurs neurovégétatifs seulement. Il y a des capteurs du système nerveux classique. La dihydroergotamine est considérée comme un bloquant du système neurovégétatif. C'est connu au point de vue neurophysiologique. Moi, je ne peux pas recommencer toutes les expériences de neurophysiologie pour le dire. Ce que je sais, c'est que j'ai, par toutes les expériences que j'ai faites en neuromédecine, j'ai eu l'occasion de pouvoir mettre en évidence, de diviser, de faire le clivage entre le système neurovégétatif et le reste. Vous avez, par exemple, et ça arrive souvent, des gens qui ont un un état pathologique compensé. Lorsque vous essayez de faire des tests par le pouls, vous n'avez aucune information. Pourquoi ? Parce que le système végétatif a compensé les écarts qui sont produits au niveau du système nerveux central. Je place ce filtre. Instantanément, les informations toxiques arrivent. Il y a avec cette méthode, et si vous trouvez un autre moyen de pouvoir bloquer le système neurovégétatif, dites-le-moi, ça me fera plaisir. Moi, j'ai l'impression, d'après ce que j'ai lu, au point de vue physique, au point de vue justement de l'action pharmacologique de dihydroergotamine, j'ai l'impression que c'est un corps qui est particulièrement bon à ce sujet. Je me rappelle en avoir même m'être ouvert au professeur Henri, qui lui connaît la question à fond et qui m'a donné complètement raison sur ma manière de voir. Maintenant, je ne suis pas professeur de chimie biologique et il est possible qu'il y ait d'autres corps qui agissent. En tout cas, la dihydroergotamine, d'après des gens comme le professeur Henri que vous connaissez, bloque le système neurovégétatif. Mais ce n'est pas en m'appuyant sur une conversation avec lui que j'ai découvert ce test. J'ai découvert en lisant un peu à droite à gauche sur les possibilités de cette substance. Il est possible que vous ayez des transferts qui restent. Des transferts qui restent parce que les transferts ne font pas toujours appel, comme on croit, au système neurovégétatif seul. C'est encore une question qu'il faudrait débattre. J'ai dit, ce qui est intéressant en auriculomédecine, c'est que l'auriculomédecine met en évidence surtout les transferts neurovégétatifs. Pour la première fois, nous pouvons étudier ce système. Ça, c'est intéressant. En réalité, depuis la dernière fois que nous sommes vus, et peut-être avant, déjà, j'en avais pas parlé, je pense qu'avec l'auriculomédecine, nous allons plus profondément et nous arrivons à mettre en évidence des informations qui ne sont pas seulement neurovégétatives.
Autre remarque, la dihydroergotamine peut bloquer le système neurovégétatif, sauf si le système neurovégétatif est lui-même malade.
C'est possible que nous puissions avoir des cas pathologiques, ça c'est certain, c'est même non seulement possible, mais certain. Et donc nous pouvons avoir, dans tous les cas, lorsque vous avez une loi, vous avez des exceptions à cette loi. C'est pour cette raison que la méthode est quand même difficile, parce que au fond, c'est une méthode biologique générale. Et nous pouvons parfaitement avoir des individus qui ne réagissent pas à la pose d'un filtre dihydroergotamine. Pour quelle raison? Vous le savez probablement. Pour quelle raison? Comment? Non, j'ai dit, la question est la suivante. Vous dites vous-même que que dans certains cas, et on peut ne pas voir bloquer le système neurovégétatif par la dihydroergotamine. Et vous savez pourquoi ?
Le blocage.
Non.
C'est un blocage.
Le blocage de quoi ?
Des afférences. Des afférences.
Oui, c'est ça. Vous avez tout le problème. Nous allons étudier tous les filtres aujourd'hui. Bon, nous allons faire tout un pas en avant absolument, je pense, très important. Mais il y a une chose qui ne fait pas partie du tout de ce séminaire, c'est tous les transferts réels. Le problème des transferts est un problème énorme. Et si vous avez beau mettre n'importe quoi sur la peau, si vous n'avez pas de transmission, vous n'avez pas d'effet. C'est tout. Vous avez donc des écarts. Vous avez donc obligatoirement, vous ne pouvez pas avoir le 100%, vous avez des cas qui échappent. Tout mon travail, c'est d'essayer par des tests de savoir quels sont ces cas qui échappent et comment les corriger. Alors là, c'est pas le travail de cette fois-ci, ça sera peut-être le travail de la fois prochaine qui traite du malade, du diagnostic et du traitement. Ça, c'est très important. Bien sûr, qu'on peut avoir, par la pose d'un filtre, qu'on peut avoir un effet insuffisant. Mais enfin, c'est quand même rare. Si vous voulez, ça rend des services extraordinaires, alors qu'avant, nous étions à la merci de toutes les informations neurovégétatives. Vous êtes bien d'accord avec moi que c'était une chose très grave.
Oui,
eh bien, il fallait arriver à l'éliminer dans une certaine mesure. Vous avez donc vu ce que représente... Ça vous va vous êtes satisfait par...
Oui, non, parce que...
Allez-y, nous sommes pour là.
On peut se fier, bien sûr, à ce que nous dit le professeur Henri sur la valeur de médicament, mais l'oreille nous a montré que ça réagit différemment, pour être le froid, pour le bras. Donc, moi, j'ai essayé de voir, en plus, que pesait la glucosamine, et j'ai été surpris de voir, par exemple, les réactions au blanc ou au noir, qui devraient disparaître, puisque c'est l'ortho parasympathique, ne sont pas jamais passées, pratiquement jamais. C'est assez surprenant. Alors, est-ce que le noir et blanc, c'est l'ortho parasympathique? Je ne sais pas, hein. Pour la question.
Vous allez.
Il y a quand même des choses qui auraient dû se modifier et qui ne sont pas modifiées. Deuxièmement, l'hydroergotamine m'a amené à quelques amis, c'est pour ça que je pose la question. Pour essayer d'apprendre.
L'amine est un dérivé de l'ergot de sexe, c'est un alpha-lytique. Vous savez que dans l'organisme, il y a le système ortho et le système para. Le système ortho comprend des récepteurs alpha et des récepteurs bêta. Il y en aurait même d'autres. Il y aurait des alpha 1, alpha 2, bêta 1, bêta 2. Bon. Mais lorsque vous bloquez les récepteurs alpha, s'il n'y a pas de dystonie neurovégétative, automatiquement, par l'équilibre de l'organisme, le parasympathique se déprime également. Donc, c'est pour ça qu'on peut considérer que l'ergot de sexe agit non pas uniquement sur l'alpha, mais sur le neurovégétatif dans son ensemble. Maintenant, il est bien évident que s'il y a une dystonie neurovégétative à la base, donc prédominante soit d'ortho, soit du para, avec un blocage dans les régulations entre l'ortho et le para, automatiquement, la dihydroergotamine n'agit plus dans ce sens-là.
C'est important parce que ça vous permet de voir qu'il y a des limites dans chacun de nos tests, et c'est pour cette raison que actuellement, alors je me permets de vous le dire, justement on anticipait, la première chose que je fais à l'heure actuelle, chose que je ne faisais pas avant, je commence par regarder chez mes malades quel est l'équilibre neurovégétatif de base. Or, l'équilibre neurovégétatif de base est souvent très important à corriger avant qu'on commence le moindre examen, parce que vous n'avez pas des transferts corrects. J'ai eu l'occasion, donc, depuis déjà pas mal de semaines et de mois, de m'orienter vers la technique suivante, qui fait partie toujours des filtres, c'est pour ça que je vous en parle. Parce que des filtres, il y en a de toutes sortes, et il y a des filtres de médiateurs. Alors j'emploie le filtre médiateur noradrénaline acétoline, et je le projette, et je projette ces filtres, je les mets sur le bras et sur le front. Je trouve, dans beaucoup de cas difficiles, puisque nous n'avons que des cas difficiles, je trouve des formules différentes. Chez certains, il va y avoir prédominance de nombreuses pulsations réactionnelles à noradrénaline, chez d'autres, prédominance de nombreuses pulsations réactionnelles à acétylcholine. Comment ? Vous entendez la mieux ? Bon. Je dis que... J'essaie donc de tout de suite, lorsqu'un malade vient me trouver... Un des premiers gestes que je fais, c'est de mettre sur, je vous ai dit, de mettre noradrénaline ou acétylcholine sur le bras et sur le front. Lorsque vous avez un excès du fil noradrénaline, chose que je ne faisais absolument pas avant parce que j'estimais que ça faussait mes observations, je fais du théramagnétique sud pendant 7 minutes. Et je vais passer en dernier une minute d'alternatif nord-sud. Comment ? Faible.
Aux deux oreilles.
Aux deux oreilles. Oui, je ne me pose aucune question,
excès
je vais passer.
Sur le front ou sur le bras ?
Comment ?
Excès.
En général, dans un véritable déséquilibre, vous avez sur le front et sur le bras. Mais vous avez sur le front un peu moins que sur le bras. parce que vous avez vraiment une inversion très spéciale qui est fait excès sur le bras et insuffisant sur le front, ben, ce n'est pas tout à fait la même chose. Mais je parle des gros déséquilibres dans lesquels vous avez une prédominance de l'information noradrénaline. Je mets dans ce cas, non, dans le noradrénaline, je mets du nord, excusez-moi sur l'abscisse. C'est du nord plus, comment? C'est le champ fort à nord que je fais passer 7 minutes. Oui, excusez-moi, c'est tout à fait nord, c'est pas celui-là.
Fort.
Oui, je vous en prie.
Vous avez un autre moyen, monsieur, de corriger la...
On a des quantités d'autres moyens, mais ce sont des moyens qui vont nous prendre énormément de temps et qui vont être plus ou moins exacts, parce qu'il est nécessaire d'avoir un bon équilibre neurovégétatif pour faire des mesures et pour savoir ce qu'on fait pour faire une bonne thérapeutique. Alors la première chose, moi je les mets au champ nord.
Et les massages.
Après, une alternative faible. Dans un second temps, je trouve au contact des malades qui ont une prédominance des réactions acétylcholine. Et dans ce cas-là, je fais l'inverse, c'est-à-dire que je fais fort 7 minutes de sud, alors cette fois-ci, et ensuite après toujours alternative faible pendant 8 minutes. Ah, ça recommence. Ah, j'ai pas touché. Hein.
Alors voilà, c'est bien. Laissez vos mains comme ça.
Là, ça marche pas. Et la fonction, si je peux dire, qui n'est pas thérapeutique, mais une fonction active. La fonction diagnostique, c'est ce qui va se produire lorsque vous observez la pose d'un filtre sur la peau, soit au niveau du bras, soit au niveau du front. Et dans cette pose du filtre sur le front ou sur le bras, c'est-à-dire sur la périphérie et ce que j'appelle le centre, vous avez pratiquement les mêmes informations. En ce sens, que le nombre de pulsations réactionnelles que vous allez observer après avoir posé le filtre mesure proportionnellement la présence sous la peau d'une substance analogue, je ne dis pas exactement la même, mais analogue à celle que vous avez posée. Je m'explique. Et tout à l'heure, vous avez vu, pour noradrénaline acétylcholine, ce qui sait comment j'ai interprété la chose. Si vous posez, par exemple, un filtre, prenons noradrénaline, sur le bras, et que vous ayez 10 pulsations, 30 pulsations, vous savez que dans le premier cas, vous avez une réaction à noradrénaline moyenne et dans le second, une réaction forte. Eh bien, ça s'interprète dans ce sens qu'il est probable que les médiateurs chimiques noradrénaline qui se trouvent sous la peau sont en quantité ou en mobilisation active proportionnelle à ce nombre de pulsations réactionnelles. Même chose pour les endorphines. Les endorphines sont posées sur la peau et on peut avoir leur dosage lorsque nous avons compté, après contact, le nombre de pulsations réactionnelles. Nous pouvons localement dire qu'à tel endroit se trouve plus d'endorphines que à d'autres endroits par le nombre de pulsations que nous recueillons. Un exemple. Vous savez tous que lorsque vous voulez faire une piqûre intramusculaire, indolore, vous donnez sur la région que vous allez piquer un choc un peu sec avec la main. C'est une chose que beaucoup de confrères connaissent.
Et c'est une méthode qui donne de bons résultats. On va faire une piqûre intramusculaire, par exemple à la fesse, on donne un petit coup sur la fesse, on pique, la personne n'a rien senti. Si vous prenez le...